Il est 9h, c'est le moment de retrouver Histoire d'Archives, cette émission mensuelle avec les archives. Donc aujourd'hui, nous avons Marie Brunel Marchetti, directrice adjointe des archives, accompagnée de Sophie Chouyal, chef du service des fonds d'archives. Bienvenue à toutes les deux. Et puis, eh bien, vous allez nous parler donc du programme d'action culturelle, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, mais tous nos voeux archivistiques pour cette nouvelle année 2026. Voilà, on va excuser Monsieur Labadie qui est indisponible aujourd'hui et donc je suis aujourd'hui accompagnée par Sophie Chouyal qui est chef de du service des fonds. Donc nous allons commencer par le programme d'action culturelle en faisant une petite présentation de nos activités jusqu'au mois de mars. Alors, dès la réouverture des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence qui réouvrent ce lundi, suite à une fermeture pour gros travaux à l'intérieur, des gros travaux archivistiques. Donc vous aurez le plaisir de retrouver notre exposition « Les archives entrent en scène » qui vous est présentée jusqu'à la mi-novembre 2027. Donc cette exposition traite de nos archives, notre production d'archives en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'administré, les archives que produit l'administration, des archives qui sont aussi bien publiques que privées. Et donc nous vous proposons à travers cette exposition de découvrir tout le processus de traitement des archives à partir du moment où elles sont créées et différentes histoires dont je vous reparlerai tout à l'heure que nous pouvons découvrir à travers la lecture de ces archives. Donc cette exposition « Les archives entrent en scène » est visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. L'entrée est libre et gratuite. Comme deuxième exposition, nous avons actuellement « Vos papiers s'il vous plaît ». Donc nous vous parlons aussi de documents d'archives, de documents administratifs sur les papiers d'identité, tout ce qu'on peut savoir, apprendre, lire à travers les différents documents qui sont produits et qui racontent aussi qui nous sommes. Donc cette exposition est visible jusqu'au 13 février 2026. Et l'entrée est libre et gratuite aussi, toujours, bien sûr, aux mêmes horaires que la salle de lecture. Au mois de mars, enfin non, fin février, début mars, du 18 février au 5 mars 2026, nous accueillerons l'exposition Notre matrimoine, une exposition que nous accueillons, qui nous est proposée par l'association Femmes Solidaires 04 et Clara Magazine. Il s'agit de découvrir des portraits de femmes qui ont écrit l'histoire. Par exemple, vous pourrez découvrir Louise Labbé, une grande femme de lettres du XVIe siècle, Olympe de Gouges, que l'on connaît très bien à la Révolution française pour être l'autrice de la Déclaration des droits de l'homme et de la femme et de la citoyenne, ou encore des figures un peu plus connues comme celle de Marie Curie. Toujours au mois de mars, du 11 au 20 mars, nous aurons une exposition intitulée « Violence, elles disent non » qui nous est aussi proposée par l'association Femmes Solidaires et Clara Magazine. Donc pour le mois de mars, vous pouvez le constater que nous faisons un focus sur les droits de la femme, aussi parce que dans le cadre de nos activités pédagogiques, nous allons accueillir des classes de Digne ou des environs, donc qui vont pouvoir travailler, assister à des conférences et travailler sur le thème du droit des femmes. Mais on ne se contente pas d'accueillir uniquement les scolaires et le grand public est bien sûr invité à venir découvrir ces deux expositions. À partir du 30 mars et jusqu'au 11 septembre 2026, nous accueillerons l'exposition « Les métiers d'autrefois ». En fait, c'est une création maison. Voilà, sur les métiers qui étaient qui ont pu être très fréquents et qui sont devenus plus rares ou qui se sont métamorphosés ou qui, pour certains ont disparu. Voilà, si je vous parle de Bourrelier, de Cellier ou de Charon, certains ne sauront pas forcément de quoi ils retournent.
Tout à fait.
Voilà. Mais cette exposition va vous inviter à venir découvrir, entre autres, ces métiers-là et tant d'autres. Voici pour notre programme des expositions. Concernant nos activités, nos autres activités culturelles, nous vous proposons une lecture d'archives. Alors, celle-ci sera hors les murs à la salle des associations des mets, ou des messes, le jeudi 22 janvier 2026 à 18h. Donc, cette lecture d'archives aura pour thème la vie rurale au mets et dans les Basses-Alpes du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Elle sera réalisée par les comédiens de la Compagnie Mobile. Et donc, vous aurez le plaisir d'assister à une lecture très vivante d'archives sur le thème de la vie rurale. Ensuite, nous attaquons notre cycle de conférences annuelles. Donc, la première aura lieu le jeudi 28. 9 janvier 2026 à 19h aux archives départementales. Ce sera une conférence menée par Jean-Loup Fontana, qui est conservateur du patrimoine, sur le thème « Parcourir la Haute-Provence sur rail ou par la route ». Donc nous allons parler de notre infrastructure de transport, comment les hommes et les marchandises se déplacent sur tout notre territoire, avec justement un parallèle ou des complémentarités entre la route et le rail.
Donc jeudi 29 ?
Jeudi 29 janvier. Le jeudi 25 février, nous accueillerons à nouveau Yanis Nassef, qui est professeur agrégé et docteur en géographie, pour une conférence qui a eu énormément de succès la première fois que nous l'avons programmée, « Quand sonne le glas du village, une géographie des villages abandonnés en montagne ». Donc, monsieur Nassef nous présente vraiment la vie et donc malheureusement la disparition, la mort de certains villages suite à des modifications géographiques, une évolution dans la manière de vivre le territoire, où il y a des zones qui ont pu être plus mises en valeur à certaines époques, et puis des routes justement étant créées, les gens vivant différemment ce territoire, certains villages ont été abandonnés. Donc après la conférence de monsieur Nassef, la prochaine conférence aura lieu le jeudi 26 mars 2026, toujours à 18h aux archives départementales. Celle-ci sera présentée par Laurence Américi, qui est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille. Le thème en sera « Entrevaux, le Maroc et l'ailleurs, un basalpin photographe et collectionneur, Désiré Sitch ». Donc là, on se situe à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. Donc une conférence sur la photographie et sur ce personnage et un parcours un peu hors du commun, une collection aussi hors du commun qui sera donc mise en valeur. Voici pour le programme donc de nos actions culturelles. Donc, deux expositions, une lecture d'archives, trois conférences pour les trois premiers mois de l'année 2026. Je vais revenir un petit peu sur notre exposition, donc les archives entrent en scène, que nous avions présenté déjà dans la précédente émission. À partir de lundi, vous pourrez à nouveau venir la découvrir. Donc aux archives départementales, c'est aux rue du Trélus à Ligne-les-Bains, de 9h à midi et de 13h à 17h, du lundi au vendredi. Donc cette exposition vous présente à la fois les métiers autour des archives et des histoires, différentes histoires que l'on peut lire à travers les archives. Pour nous, c'était important de mener cette exposition parce que souvent, nos métiers sont méconnus, où il y a beaucoup de clichés, de fantasmes, de beaucoup d'imagination. On s'imagine souvent des archivistes. Alors déjà, ce sont des vieux monsieur très érudits, un peu crispés sur leur savoir et sur leurs documents, qui avec une sorte de culte du secret. Et en fait, on est vraiment très loin de ces clichés. Déjà, on a une équipe qui est très féminine, allez, on va le dire jeune. on va se décrire comme jeune et dynamique, toujours. Voilà. Et on est en fait très très tourné vers les nouvelles technologies, vers la communication. Et ce qui est assez amusant, c'est que justement, on est quand même dans une tradition depuis deux siècles, depuis la Révolution française, d'ouverture des archives, de communication, et on reste toujours sur ce cliché qui date en fait d'avant les révolutions, qui est de fermeture, de culte du secret, de non-communication, de non-accès à l'information, alors que ça fait déjà longtemps qu'on œuvre pour rendre les documents, la connaissance accessible au plus grand nombre. Donc, venez découvrir nos métiers les histoires que les archives peuvent vous raconter en visitant cette exposition. Elle est construite autour d'un parallèle ou d'une métaphore qui va vous poursuivre tout au long de votre visite avec le cinéma ou les métiers du spectacle vivant.
Voilà, oui, j'étais venue pour l'inauguration et c'était très amusant d'essayer de retrouver dans l'exposition quelques phrases.
Quelques répliques de films.
Quelques répliques. Est-ce que depuis le jour de cette inauguration, vous avez eu des retours des gens qui ont participé à ce jeu concours?
Alors, pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Bon, pour une raison très technique, en fait, qui est que nous avons été fermés pour les fêtes de fin d'année.
Ah ouais.
Et là, nous allons achever nos 15 jours de fermeture pour des travaux de grande ampleur qui ont lieu dans les collections et dont Madame Chouyal vous parlera tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si les gens vont réussir à trouver toutes nos répliques de films. Alors ça reste un challenge, que nous vous invitons à venir relever. C'est vrai qu'il y en a 33, il y en a certaines qui sont difficiles. Celle que Sophie Chouyal a mise dans son texte, je ne sais pas si moi je l'aurais trouvée. Voilà, mais c'est motivant. Venez le faire en groupe, ça peut être très amusant aussi. Donc, c'est vrai que nous avons plusieurs jeux pour les adultes et pour les enfants autour de cette exposition. Et donc, nous avons construit tout notre propos autour de la métaphore donc du spectacle vivant ou du cinéma, en présentant nos archives comme nos superstars et qui sont en formation tout d'abord, qui naissent, qui se créent, que l'on va choyer au sein du bâtiment des archives départementales et même ailleurs. Donc là, il s'agit vraiment de retracer d'une manière simple, compréhensible et aussi ludique tout le parcours donc de formation d'archives comme étant des superstars de cinéma dans notre structure. Donc, si l'on parle du bâtiment des archives comme d'un théâtre, il y a aussi la première grosse opération, c'est le casting. Voilà. Comment va-t-on sélectionner nos acteurs, tous ces documents, parce qu'il y a énormément de documents qui sont produits chaque jour, à la fois sous forme papier, sous forme numérique, sous forme de photographie. Enfin, les supports sont extrêmement divers et on ne peut pas tout garder. Il faut absolument opérer une sélection pour conserver uniquement ce qui pourra avoir... Enfin, uniquement, c'est un bien grand mot, pour conserver ce qui pourra avoir un intérêt à la fois administratif, juridique, prouver des droits, et aussi historique. Donc, Là, l'archiviste transformé en directeur de casting a une double, triple casquette, plusieurs types de regards pour se dire, ben voilà, tel type de document pourrait être conservé parce qu'il a un intérêt, il a un intérêt particulier historique. Attention, là j'ai des textes de loi qui me disent que tel document doit être conservé un certain temps parce que pendant ce temps-là, il fait preuve. Il fait preuve devant différentes juridictions. Et Madame Chouyal est une grande spécialiste de cette question-là.
Oui, alors merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Moi, effectivement, en tant que chef du service des fonds, c'est-à-dire chef de la collecte, du classement et de la conservation au sein des archives départementales, j'interviens énormément auprès de toutes les administrations d'État, les hôpitaux, les établissements publics pour les aider à évaluer leurs archives. Et vraiment, l'action d'évaluation, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre métier, puisqu'on va apprécier, comme l'a dit Madame Brunel, l'intérêt juridique, l'intérêt administratif, l'intérêt historique du document, et on va surtout aider les producteurs d'archives publiques à éliminer leurs documents. Et ça, c'est une opération qui parfois peut faire peur, c'est une opération parfois qui peut être source de beaucoup de questions, parce que, comme l'a dit encore Madame Brunel, effectivement, on a un corpus réglementaire assez important, bien construit, et puis parfois, il n'y a rien. On rentre dans un dépôt, on rentre dans une cave, dans un grenier, et on a quantité de cartons d'archives, de liasses, pour lesquels il va falloir prendre une décision. Et cette décision-là, elle fait appel justement à cette compétence de l'archiviste qui est l'évaluation, et il questionne à la fois le service producteur mais aussi l'intérêt historique. Et tout ça, c'est quelque chose qui se construit au fil des années. On travaille aussi avec le réseau archivistique français. On regarde ce qu'ont fait les collègues dans les autres départements. On regarde l'historiographie. On discute entre nous dans le service. Et parfois, on arrive à prendre des décisions collectives pour des fonds, des versements qui sont voilà, pour lesquels on n'a aucune consigne de tri, de conservation ou d'élimination. Alors j'ai un tout petit exemple à vous donner qui est très amusant. Un jour, je crois que c'était en 2025, j'ai fait effectivement une évaluation dans un service administratif que je ne peux pas nommer, sur un fichier très très important qui contenait à peu près, je pense, entre 20 000 et 25 000 fiches quand même. Et dans ce fichier, il y avait des photographies. Et sur les photos, moi, je trouvais pas grand intérêt, mais en discutant avec Monsieur Labadie, on s'est aperçu qu'il y avait un détail qui pouvait intéresser l'historien, et effectivement, il y a eu une publication scientifique sur ce sujet-là, c'était des photos de tatouages. Il y avait des photos de tatouages. Et aujourd'hui, il y a des études historiques sur tout ce monde de l'histoire, de la signification du tatouage sur la peau, etc. Et donc on a gardé ce fichier avec ces photos parce que effectivement elles pouvaient témoigner de comment on se fait tatouer, qu'est-ce qu'on se fait tatouer, les motifs, la période, féminin, masculin, les dessins, etc., etc. Et c'est typiquement le cas d'une évaluation où de prime abord les informations écrites étaient très pauvres, totalement inintéressantes. En revanche, les informations iconographiques étaient particulièrement intéressantes. Voilà, je ferme la parenthèse et je rends la parole à Madame Brunel.
Merci Sophie Chouyal. C'est vrai que là, on touche un peu par hasard à l'histoire intime, parce que là, on parle de dessins, d'expression artistique sur la peau, enfin d'expression artistique ou d'expression de soi, en tout cas sur la peau, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Vous avez parlé, Sophie Chouyal, de l'élimination. Alors là aussi, voilà, c'est la suite de notre casting d'archives que nous opérons sur les prétendants, nos prétendants superstars. C'est vrai que nous conservons. C'est une de nos missions, un des 4 C. Voilà, c'est conservation, collecte, conservation, communication, et ça y est, j'ai oublié le
classement.
Classement, oui, bien sûr. Bien sûr, le classement. Nous conservons, mais nous ne pouvons pas tout conserver, donc il faut éliminer. Il faut éliminer, et là, c'est toujours une période très délicate parce que, enfin un moment très délicat parce que il s'agit aussi de éventuellement d'oublier certains pans, certaines informations, certains pans de l'histoire. Donc il faut y aller avec énormément de précautions. Donc, mais cela permet aussi d'assurer la qualité des informations qui vont être après classées et communiquées. Parce que quand on a trop d'informations, en fait, les éléments pertinents sont complètement noyés dans la masse et ça demande une énergie et un temps pour arriver à les retrouver, les lire et travailler dessus. Donc, le travail des archivistes à ce moment-là est vraiment de dégrossir cette partie-là de la recherche pour ne garder que ce qui va être vraiment pertinent.
Et est-ce que ça peut arriver, évidemment, que vous ne soyez pas tous d'accord pour éliminer certaines archives ?
Alors,
oui, je reprends la parole, je vous remercie. Effectivement, des fois, on n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord, c'est toujours une discussion entre le service producteur et les archives départementales. Et ça, c'est important. Nous, on va donner un avis historique, on va donner un avis patrimonial. Et quand on dit non, on garde, pour l'histoire, le service producteur ne peut pas s'y opposer. En revanche, quand une circulaire où nous, on peut dire, bah, écoutez, ça, t'as pas tellement d'intérêt historique, on peut éliminer, mais le service producteur ne veut pas éliminer pour des raisons administratives et juridiques, bien entendu, jamais on ne s'opposera à un refus d'élimination du service producteur quand il est argumenté et motivé. Ça, c'est important. L'élimination, elle n'est pas, elle se co-construit. Elle se partage, elle s'argumente. Et c'est très important parce que ça permet de prendre des décisions qui sont documentées, qui sont éclairées. Voilà.
Oui. Et les producteurs qui ne voudraient pas éliminer leurs documents d'archives, ils ne peuvent pas nous imposer de les conserver. Dans ce cas-là, ils les conservent chez eux.
Tout à fait.
Avant de vous parler de quelques histoires qui sont racontées dans notre exposition Les archives entrent en scène, donc pour vous résumer très très rapidement le parcours de ces archives, donc après un casting, après des éliminations éventuelles, il faut bien sûr passer au classement sur des très grandes tables sur des étagères où on va vraiment présenter, enfin lire, survoler, essayer de reconstituer une cohérence dans ce qui nous a été donné. Alors heureusement, les versements, donc les ensembles de documents qui nous ont été donnés par les services producteurs ou les particuliers, ces versements ou ces dons ont déjà une cohérence. Donc on ne part pas de rien, normalement. Mais il faut quand même avoir souvent une vision très globale pour en fait intellectuellement comprendre comment tous ces documents fonctionnent, comment ils s'articulent. Comment ils vivent et ils ont été créés de manière à arriver à transmettre ou à mettre en valeur leur sens. Donc, une fois le classement fait, bien sûr, il y a cette opération intellectuelle très importante qui consiste à rédiger les inventaires. Voilà, ça c'est vraiment fondamental pour qu'après les chercheurs, alors que ceux-ci soient des administrés ou des historiens, c'est vraiment, les archives sont accessibles à tous sans distinction, mais pour donner à lire les archives, il faut qu'elles soient correctement décrites. Et il faut absolument donc que les descriptions soient normées, fines, précises, et de manière à être les plus explicites possibles. Après, il y a bien sûr toute la partie conservation, mais ça je sais que Sophie Chouyal nous en parlera tout à l'heure. Et donc je vais maintenant vous parler de quelques documents d'archives que nous avons sélectionnés dans notre exposition pour mettre en lumière certaines histoires qui transparaissent au sein des documents qui sont présents dans nos collections. Alors, tout d'abord, alors là c'est vraiment une superstar, la superstar des archives départementales. Il s'agit d'un rouleau, de parchemin qui date du XIIIe siècle, plus précisément 1287, et qui est conservé chez nous par dépôt. En fait, ce rouleau de parchemin qui fait plus de 5 mètres, il appartient à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye. Et il raconte, en fait, c'est un document juridique, c'est un recueil de témoignages. Et quand on le lit, en fait, l'histoire qui se dessine derrière, c'est l'histoire de bergers. Voilà. On est en montagne, on est sur des pâturages d'altitude, et bien sûr, il y a des bergers locaux qui font pâturer leurs moutons, et il y a des bergers qui viennent de l'extérieur, des bergers étrangers. Alors on ne sait pas exactement d'où ils viennent, mais ils auraient l'autorisation du comte de Provence pour venir faire pâturer leurs bêtes à Saint-Paul. Et sauf que ça tourne mal, parce que les gens ne sont pas, enfin les bergers locaux ne sont pas d'accord, la communauté n'est pas d'accord, et donc ils en viennent aux mains, ils se battent. Donc c'est une histoire d'une rixe, hein, comment des gens se sont battus en montagne au XIIIe siècle pour des questions de droit d'usage du pâturage. Donc c'est quand même assez étonnant de voir le droit d'usage de la montagne en fait est très ancien et qu'il a été très tôt réglementé et géré par les autorités. Et avoir ce témoignage sous cette forme-là, parce qu'il est quand même très très impressionnant, hein, c'est un rouleau donc de 5 mètres avec une écriture assez fine, enfin voilà, on a quand même une émotion quand on voit ce document, que d'ailleurs vous pourrez voir exposé, l'original sera exposé là pendant un mois et demi, donc venez le voir, c'est un vrai trésor. Donc après cette première histoire, donc une rixe en alpage, là on va être un petit peu plus dans la poésie autour d'une histoire que nous espérons être une histoire d'amour, voilà, puisqu'elle se conclut par un mariage. Voilà, c'est l'histoire de ce mariage, ou plutôt de ce contrat de mariage que nous vous proposons. On a intitulé ça péplum, parce que quand on lit le document, on se dit voilà, on pourrait être en Orient, on pourrait être voilà autour de Jérusalem avec dans un contexte très technicolore, voilà de ce genre cinématographique, parce que c'est un contrat de mariage donc entre une jeune femme et un jeune homme qui sont issus de la communauté juive. Et donc c'est au sein de cette communauté que sont décrites les différents termes du contrat. Sauf que ce contrat n'a pas du tout été passé au Proche-Orient, il a été passé à Fort-Calquier. Voilà. Et on l'a retrouvé de manière assez incongrue, surprenante, mais en fait commune au sein des archives, qui est dans un registre notarié, un registre de notaire qui en fait avait réutilisé le parchemin pour faire la couverture de son registre. Et donc comme ça, on a un certain nombre de trésors qui ont pu émerger, qui ont été sauvés de l'oubli, des parts d'histoire de notre département qui ainsi peuvent réémerger. Et là, je ne résiste pas au plaisir de passer la parole à Sophie Chouyal, qui va nous parler de son sujet de prédilection, des câbles porteurs. Toute une poésie montagnarde et assez typique du département.
Alors, je ne sais pas si c'est très poétique. En revanche, c'est une histoire surprenante d'archives. Donc, pour cette exposition, j'ai effectivement choisi d'évoquer les câbles porteurs agricoles du département. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, en intervention, je crois que c'était au musée de la vallée de Barcelonnette, la conservatrice du musée, Madame Holmes, me présente un registre tout à fait étonnant, qui était un registre des eaux et forêts, et c'est un registre qui récapitule le paiement des droits d'usage de la forêt. Bon, a priori, c'est pas très intéressant, ça raconte pas grand-chose, et puis c'est le genre de choses que probablement on allait proposer à élimination. Et en ouvrant ce registre, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait effectivement le paiement des droits d'usage pour les câbles porteurs agricoles. Alors, c'est quoi les câbles porteurs agricoles ? C'était des câbles qui étaient installés en haut des montagnes pour descendre le fourrage des alpages, mais pas que, le bois, parfois le lait sur Alos, par exemple, ce que l'on pourrait nommer en règle générale les menus produits de la forêt. Et ce sont des câbles qui ont été installés à la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Oui.
Comment ils fonctionnent ces câbles ?
Alors, on accrochait en haut du câble, au départ, des trousses de foin. Ils étaient tendus entre deux poteaux, en fait, en bois, un poteau en haut, un poteau en bas, tout simplement, et on accrochait des trousses de foin pour qu'elle puisse descendre plus vite à la grange et arrêter de perdre son temps, son énergie avec des mulets, des hommes, pour aller récupérer le fourrage en montagne.
C'est comme une tyrolienne, en fait.
C'est comme une tyrolienne, mais qui se servait à descendre les menus produits de la montagne. Et moi, ça m'a intéressée parce que je trouve que il y a eu un engouement assez fort, notamment sur l'arrondissement de Barcelonnette à la fin du 19e siècle. Et les éleveurs, les agriculteurs ont installé ce type de câble pour gagner du temps parce que la main-d'œuvre était devenue chère, d'une part, et d'autre part, il y avait peu de main-d'œuvre de par l'exode rural. Et donc, c'est un sujet qui m'a intéressée parce que, à un moment donné, tout le monde se mobilise, tout le monde travaille ensemble, on crée des associations syndicales autorisées, on demande l'aide de l'État, des ingénieurs des eaux et forêts, du sous-préfet, le financement de l'État, et il y a un véritable engouement pour installer ces solutions techniques pour gagner du temps et surtout pouvoir subvenir dans un pays de montagne où il était quand même pas si évident que ça de vivre et de rester au pays. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, ce sont quelques histoires que l'on peut retrouver au sein de notre exposition. Donc, les archives entrent en scène, qui sont visibles jusqu'à la mi-novembre 2027 aux archives départementales, où l'ouverture est du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Et je crois que nous allons faire une pause musicale avant la suite des opérations.
J'avais un ami, mais il est parti. Je pense à ma vie, mais tu t'en fous. Il m'a tout donné, tu t'es effacé. Yeah.
Et nous sommes de retour donc pour cette présentation donc des archives de l'histoire et nous vous proposons maintenant d'enchaîner sur la présentation des opérations archivistiques qui ont été menées dans notre service depuis 2024 et pour ça je laisse la parole à Sophie Chouyal qui est notre chef du service des fonds.
Voilà, je vous remercie. Bonjour. Voilà, donc chef du service des fonds, je vais peut-être commencer par définir en quoi ça consiste, parce que c'est un peu obscur peut-être. Donc je m'occupe de la collecte, du classement, de la conservation au sein des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Je ne suis pas toute seule, j'ai une équipe de 8 agents avec moi. Et donc nous intervenons sur l'ensemble du département, des producteurs d'archives publiques du département, pour collecter leurs fonds, les aider à préparer des versements le plus cohérent possible pour les archives départementales, les aider, on en a parlé en première partie, à évaluer leurs documents, les aider à éliminer aussi, et puis nous réalisons pour eux, quand le corpus réglementaire est un peu un petit peu déficient, ce que l'on nomme des tableaux de gestion. Donc le tableau de gestion, c'est un document qui va récapituler l'ensemble des typologies produites et reçues par le service producteur. Et pour chaque typologie, on va définir combien de temps on garde le document et qu'est-ce qu'on en fait à l'issue de ce temps de conservation.
Mais qu'est-ce qu'une typologie ?
Une typologie, c'est la nature du document, un procès-verbal, un registre, une correspondance, un compte-rendu, un dossier de subvention, un registre de notaire, quel que soit le document. Voilà, c'est la nature du document. Voilà. Donc, voilà pour la définition de chef de service des fonds. Alors, depuis effectivement presque un an et demi, bientôt deux ans, nous menons des opérations assez importantes au sein de nos dépôts, puisqu'il s'agit de s'occuper du transfert des fonds, je vais le définir, et de mettre en charge l'extension. Alors, au niveau du département, nous avions 4 dépôts d'archives. Donc tout le monde peut-être, je ne sais pas, connaît le dépôt principal des archives départementales qui se trouve en face d'Intermarché à Digne-les-Bains. Mais nous avions aussi 3 autres dépôts, l'un à Maligé et les 2 autres sur Digne-les-Bains. Donc un autre dépôt dans le bâtiment François Mitterrand, et enfin le dernier au centre technique routier départemental que l'on nomme le dépôt des Arches. Donc nous avions 4 dépôts d'archives et avec la livraison de l'extension du bâtiment principal, nous avons dû en fait vider un des dépôts, c'est le bâtiment qui était au bâtiment François Mitterrand. Et là, effectivement, ça représente quand même une masse assez imposante. En tout, nous conservons 14 500 d'archives, dont 11 km, un peu plus de 11 km dans le dépôt principal. Et il s'est passé quelque chose en 2024, au printemps 2024, c'est que le conseil départemental a créé un centre de santé, le centre de santé départemental. Et donc là, il y a eu un jeu de chaises musicales puisque 2 services ont dû déménager, donc l'amicale du conseil et la régie technique, hein, c'était un des services des bâtiments qui ont dû déménager et donc ils ont dû venir s'installer dans l'espace qu'on occupait dans le bâtiment François Mitterrand et donc on nous a demandé d'intervenir en urgence et de débarrasser ce que l'on nommait donc le silo. Et là, je vais simplement vous décrire un peu matériellement et physiquement à quoi ressemblait ce silo et à quoi nous avons été confrontés. Donc dans ce silo, on imagine comme un entrepôt Amazon avec des lisses, des palettes et nous conservions là à peu près 1 km d'archives, toutes référencées, toutes localisées et toutes décrites. Et donc il nous fallait en moins d'un mois débarrasser à peu près 1 km d'archives, ce qui n'est pas sans poser problème. Donc on a dû discuter avec les services pour trouver une solution parce que nous, à l'époque, l'extension n'était pas encore livrée. Donc comment faire entrer 1 kilomètre d'archives dans notre bâtiment principal qui était alors à saturation? Dans notre bâtiment principal, on avait moins de 100 mètres linéaires. Donc il nous manquait 900 mètres.
Oups.
Là, comment on faisait? Donc, évidemment, l'équipe s'est creusé la tête. On a dit, on ne peut pas débarrasser l'intégralité du dépôt. On va libérer les deux lisses, c'est-à-dire les deux étages inférieurs. C'est comme des immenses étagères sur lesquelles on posait les palettes de bois avec les cartons d'archives pour libérer de la place pour nos collègues de la régie. Et donc, on a dû calculer à toute vitesse comment on travaillait, comment on reconfigurait le dépôt pour pouvoir libérer ces palettes. Ce sont deux racks de... Ce sont deux racks des racks métalliques qui se faisaient face et l'espace entre les deux est très étroit et donc on manipule tout ça avec un gerbeur. Donc on ne peut.
C'est une sorte de transpalette.
Voilà, de transpalette en hauteur. Et pour manipuler tout ça, on ne peut pas correctement manipuler le gerbeur au sein de cet espace. Donc en gros, pour traduire, on ne peut pas descendre, mettre deux palettes au même endroit. Donc c'est très très compliqué de travailler dans cet espace. Et là, donc, on a dû fermer le bâtiment au public pendant une semaine. On a mobilisé toute l'équipe des archives, on a fait des équipes jour par jour avec les tâches de chacun, ceux qui s'occupaient du gerbeur, ceux qui récollaient, c'est-à-dire qui notaient la localisation des boîtes, des containers à archives, ceux qui réorganisaient ensuite les dépôts au sein du bâtiment principal. Ça a été une ruche absolue pendant à peu près une semaine, parce qu'on ne pouvait pas fermer au public plus longtemps. On est d'abord un service public à destination du public. Et donc, on a débarrassé les deux premières listes du silo dans une urgence absolue pour pouvoir permettre le déménagement de l'amicale, je l'ai dit, et de la régie technique du service des bâtiments. Voilà. Et puis après, nous avons dû, entre guillemets, condamner les fonds qui y restaient, parce qu'on avait déménagé à peu près 59 mètres linéaires aux archives départementales et 10 palettes qu'on a dû transférer dans un autre dépôt. Tout le reste est resté dans le silo. Et là, on a demandé au service des bâtiments de nous installer un immense filet, comme le filet des trapézistes, sous l'hélice, pour condamner complètement les archives qui y restaient, parce que
oui. Oui. Pourquoi une telle condamnation?
Alors.
Voilà. Mais pourquoi donc?
Pour éviter. On était plusieurs à partager cet espace et pour des raisons de sécurité, il fallait empêcher quiconque d'accéder à ces cartons. Donc, on doit en tout temps, en tant qu'archiviste, faire attention à la sécurité de nos fonds. Donc là, on a mis ce filet pour la sécurité de nos fonds, pour que personne puisse aille toucher ces fonds d'archives. C'était très important, quand bien même après il y avait une autre grille qui était fermée à clé, mais on a mis ce filet là, et pour des raisons de sécurité, parce qu'il y avait aussi nos collègues qui travaillaient en dessous.
Oui, pour des raisons de sécurité, de confidentialité des documents.
Voilà, voilà.
Mais les archivistes avaient bien sûr toujours accès en cas de nécessité, non?
Alors, nous, on n'y avait même plus accès, sauf on a eu une demande de recherche qui a été très très urgente. On a dû couper les serflex qui retenaient le filet, récupérer les cartons avec le gerbeur, descendre les cartons et transmettre le document pour répondre à cette demande de recherche urgente.
C'est une vraie aventure.
C'était une vraie aventure. Une vraie aventure. Donc voilà, donc on a commencé les grandes opérations de transfert au printemps 2024. Et puis, bien évidemment, on attendait de pied ferme la livraison de notre extension. On en rêvait depuis 15 ans. Depuis 15 ans, nous refusions des versements. Depuis 15 ans, on disait aux administrations et aux services publics, aux services producteurs, pardon, non, là, on peut prendre que 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, mais pas les 150 que vous avez, nous n'avons plus de place. Et donc, en avril 2025, mars-avril 2025 de l'année dernière, l'extension a été opérationnelle, et là, donc, nous avons dû poursuivre le transfert de tous les fonds qui étaient au silo. Et là, on a fait appel au service d'une entreprise parce que il y avait effectivement à peu près 850 mètres linéaires à transférer. Donc c'est quand même très important, ça nécessite une organisation assez importante pour relocaliser, pour dépoussiérer les fonds, pour les identifier, les reconditionner, et ça a été quelque chose qu'on a mené tambour battant en à peu près une petite 10 jours, une semaine, 10 jours à peu près. Nous avons et là en revanche nous avons laissé le service ouvert, donc nous étions ouverts au public et en même temps on passait la porte de la salle de lecture, c'était une ruche avec l'entreprise qui manutentionnait les palettes, les cartons. Nous avons même fait un film de tout cela parce que tous ensemble, nous avons inauguré la première boîte qu'on a déposée dans notre extension et ce film est visible sur l'exposition qui est actuellement qui vous est actuellement présentée. Voilà, donc on a raconté aussi cette histoire qui est une histoire c'est pas rien pour nous de poser la première boîte dans l'extension parce qu'on a attendu cette extension pendant à peu près 15 ans. Donc c'était un grand bonheur. Voilà. Je poursuis donc sur tous ces transferts. Donc le silo, on a terminé de déménager le silo en avril 2025 et à partir du mois d'avril jusqu'à ce matin, c'est encore en cours ce matin, nous avons mis en charge l'extension. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, ça veut dire quoi, mise en charge ?
Ça veut dire qu'on a reconfiguré l'ensemble de nos magasins entre le dépôt, l'ancien dépôt, le bâtiment actuel des archives départementales et l'extension. Nous avons réorganisé tous nos fonds puisqu'il y avait beaucoup d'incohérences de par le manque de place, il y avait beaucoup d'incohérences dans le rangement et la structuration de tous nos fonds d'archives et puis il fallait aussi réfléchir à la sauvegarde sanitaire et la sauvegarde la prévention des risques. C'est-à-dire qu'on avait des fonds très précieux qui étaient au rez-de-chaussée. Or, en cas d'inondation, effectivement, ce seraient les fonds les touchés en premier. Donc, on a reconfiguré la localisation de nos fonds en fonction des risques, en fonction de leur accessibilité, en fonction de la cohérence intellectuelle et en fonction de leur état de traitement.
Donc tout ça s'inscrit bien sûr dans le cadre du plan de sauvegarde des biens patrimoniaux qui est en cours d'élaboration au sein des archives départementales.
Oui, on est en cours de rédaction et d'élaboration de ce plan. C'est un document qui est extrêmement important et qui demande un gros travail de recherche et de mise en œuvre. Oui. Oui. Donc voilà, donc là on termine actuellement le transfert vers l'extension et la reconfiguration de tous nos magasins. Alors pour vous donner quand même quelques chiffres, on a quand même manutentionné 3,5 km d'archives. Donc ça a été, on a réalisé une quarantaine d'ateliers depuis avril 2025 jusqu'à ce matin avec chaque fois des équipes pour prendre tel fonds d'archives, telle boîte dans tel magasin et pour aller la localiser ailleurs. Donc ça demande pas mal de travail. Et aussi, on a dépoussiéré et reconditionné, alors ne serait-ce que l'année dernière, on a dépoussiéré 88 mètres linéaires d'archives et on a reconditionné 123 mètres linéaires d'archives.
Mais qu'est-ce que vous appelez exactement le reconditionnement ?
Alors reconditionnement, ça veut dire mettre en boîte archive, ça veut dire emballer les liasses dans du papier neutre, utiliser de la lie. La lie, c'est le ruban coton qui va nous permettre de maintenir en place les documents. Et c'est préserver à l'interne et à l'externe, c'est-à-dire au moyen d'un papier neutre et après on met la liasse, on range la liasse dans une boîte. Avec une boîte, c'est préserver les documents. Notre rôle, c'est de transmettre toutes ces collections, tous ces documents aux générations futures dans le meilleur état possible. Donc à force de manipulation, parfois ça arrive dans un état assez lamentable chez nous, déchiré, en poussière, avec de la poussière, avec parfois de la moisissure, avec des attaques d'insectes. Et notre rôle, c'est de stopper ces dégradations, c'est ce qu'on appelle la conservation curative, et c'est surtout, avec la conservation préventive, de prévenir la dégradation des documents. Donc là, on a énormément reconditionné l'année dernière pour, dans le cadre de transfert des fonds, pour améliorer et toujours améliorer la préservation des fonds. C'est très important. Voilà. Donc effectivement, là, nous terminons peut-être ce matin ce gros chantier de transfert qui a mobilisé toute l'équipe tous les mardis après-midi depuis le mois d'avril. Et je pense que les agents sont très très contents de terminer, puisque voilà, ça génère aussi des petits bobos. On sait, voilà, on a eu tous les mains au moins une fois écrasées par le chariot.
Des tout petits bobos.
Des tout petits.
Parce que nous sommes très prudents.
Nous sommes très prudents.
Voilà, tout le monde a ses chaussures de sécurité, éventuellement des gants. Bon, il faut faire
voilà,
la chasse un peu.
Voilà, voilà.
Mais c'est vrai que quand on manipule des archives, alors déjà, l'accident du travail le plus courant pour l'archiviste, c'est bien sûr la coupure avec du papier,
oui,
ou du carton, qui est très douloureuse, comme chacun le sait. Et bon, là, on a aussi des questions de manipulation, de boîtes qui, même si elles pèsent entre 2 et 3 kilos, la répétition fait qu'il y a une certaine fatigue aussi qui apparaît. Il y a des chariots qui sont gros. Quand ils sont chargés, ils sont très lourds. Donc, on prend un luxe de précaution pour éviter, bien sûr, de se blesser.
Voilà, tout à fait. Donc là, normalement, nous allons terminer ce matin. Et notre grande réussite aussi, c'est de réouvrir lundi la salle de lecture au public avec l'ensemble des fonds qui auront été récoltés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les fonds qui ont été transférés leur nouvelle localisation a été enregistrée d'une part et reportée dans le système d'information archivistique. Donc ça veut dire que normalement, si tout va bien, à l'ouverture à 9h lundi en salle de lecture, si un lecteur nous demande une cote d'un notaire qui a été transférée, nous sommes capables de la localiser. Et ça, c'est très 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 important.
Oui, c'est très important parce que 15 km de documents, comment retrouver une liasse, un registre quand on a 15 km de rayonnage où le document pourrait s'être égaré? Eh bien non, ce genre de choses n'arrive pas, ou le moins possible, parce que justement nous tenons un récollement à jour. C'est une sorte de géolocalisation des documents dans notre dépôt, et c'est une fonction majeure de notre métier, savoir où sont stockées les choses.
Oui, c'est ce que l'on nomme le récollement permanent. Voilà, donc en permanence, quand un fonds rentre dans un dépôt ou quand il en sort, on tient à jour une base de données qui nous permet de savoir combien il y a de boîtes sur le fond et surtout quel est son état sanitaire aussi. Voilà, s'il faut le restaurer, s'il faut le retirer de la communication en salle de lecture parce que le document est trop endommagé, voilà, s'il faut le reconditionner, s'il faut le dépoussiérer. Donc ça, c'est très très important, et on a œuvré là pendant les 15 jours de fermeture technique. On avait des équipes à la fois sur le transfert, sur le récollement, sur le reconditionnement, sur toutes ces opérations pour pouvoir réouvrir et offrir un service de communication de documents qui soit opérationnel, et puis éviter que nos magasiniers cherchent et recherchent dans 15 km d'archives le registre de notaire à communiquer éventuellement lundi matin à 9h.
Oui, parce qu'un magasinier qui erre totalement perdu dans les dépôts d'archives, dans les magasins, c'est toujours un crève-cœur.
C'est toujours un crève-cœur, on est d'accord. Voilà. Alors, je pourrais aussi dire que tout ça ne se fait pas seul, c'est du travail d'équipe. Bien évidemment, il y a eu un bel engagement, une belle solidarité de tous les agents, et vraiment toute l'équipe des archives départementales à tour de rôle a participé à ce transfert. Et ça, c'était important parce que ce sont des grosses opérations qui nous mobilisent beaucoup, qui nous font sortir de notre petit train-train quotidien, on va dire ça comme ça. Et donc, c'était important que chacun puisse s'approprier le nouveau bâtiment, l'extension, et puisse aider les agents du service des fonds à transférer quand même 3,5 km d'archives. Voilà.
Oui, c'est quand même une très grosse opération qui a lieu donc depuis quasiment 2 ans et qui en fait c'est l'aboutissement de tout ce travail de réorganisation à la fois du bâtiment avec la construction donc de cette extension qui est dans le prolongement de l'ancien bâtiment qui a été construit en 1996. Et donc avec des accès facilités et cette extension donc aussi qui correspond absolument à toutes les normes de conservation à la fois en termes de température, d'hygrométrie, c'est-à-dire le rapport entre la température et l'humidité. Nous avons aussi comme mesure de conservation préventive nos pièges à insectes. On a une surveillance aussi sur la présence de rongeurs. Voilà. Les atmosphères sont contrôlées, les accès aussi sont contrôlés parce que nous avons vraiment besoin d'assurer la sécurité des documents. Il y a quand même parfois des informations qui sont sensibles, qui sont personnelles, qui sont intimes dans les archives que nous pouvons conserver. Donc nous avons vraiment cette attention-là justement à ce que Sophie Chouliale disait tout à l'heure. C'est notre travail est un travail de transmission. De transmission de documents matériels ou immatériels dans les archives numériques, mais en fait, même ces archives-là ont quand même une certaine matérialité. Donc nous sommes dans la transmission et donc dans la communication. Et pour arriver à avoir à transmettre correctement dans les meilleures conditions possibles ce patrimoine, eh bien il y a aussi tout ce travail vraiment technique, de manutention, on a l'impression d'être une équipe de déménageurs parfois, parce que ça fait partie justement de la bonne conservation des documents d'archives.
Merci à toutes les deux. L'émission tire à sa fin. Vous avez pu nous donner tout ce que vous aviez envie de nous donner comme information.
Oui, oui, voilà. Oui, je vous remercie. Oui.
Donc merci Sophie Chouliale et Marie Brunel de Marchetti pour cette belle émission encore sur les archives.
Merci à vous.
Au revoir.
Très bonne journée.